Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et dans vos chroniques de la semaine dernière, vous nous mettiez en garde, Brice, contre une probable interférence d'une ou plusieurs puissances étrangères dans la grave crise que nous traversons. Quelle preuve en avez-vous, cher Brice ?
Eh bien, à l'époque, je n'avais d'autre preuve que d'avoir été moi-même confronté sur les réseaux sociaux à des comptes suspects. De ces comptes, vous savez, anonymes, souvent illustrés d'images violentes, relayant des fake news, éructant et menaçant leurs contradicteurs, dont l'œil exercé perçoit qu'ils travaillent en meute et suivent les ordres du jour d'un chef d'orchestre. Orchestre clandestin. De telles cyberattaques ont été observées durant les campagnes électorales récentes dans plusieurs pays démocratiques. Les dirigeants de Twitter, de Facebook, de Google ont dû répondre de leur laxisme dans la vente de publicités ciblées durant la campagne présidentielle américaine de 2016 devant le Congrès. Mark Zuckerberg, le directeur de Facebook, a ainsi reconnu avoir encaissé 100 000 dollars pour la diffusion de 3 000 publicités politiques achetées par 400 faux comptes issus des fameuses usines à trolls russes contrôlées par le gouvernement de ce pays. Les messages diffusés n'étaient pas systématiquement favorables à Trump, même s'ils l'étaient souvent, mais ils alimentaient de vaines polémiques, diffusaient des alarmes imaginaires, hystérisaient le débat public par de folles rumeurs. Alors bien sûr, on peut discuter de l'influence réelle de ces campagnes sur les réseaux sociaux, mais on doit admettre qu'elles contribuent à faire croire à la popularité de certaines idées, puisqu'on les voit tous les jours. Elles ont en tout cas précédé les victoires récentes des partis populistes, Brexit, Trump, Salvini, Bolsonaro. Or, l'agence de cybersécurité New Knowledge, citée par The Times d'hier, affirme avoir repéré 200 comptes Twitter extraordinairement actifs, puisqu'ils diffusent 1600 tweets et retweets par jour en français, tous liés à l'État russe. Ces comptes relaient de fausses informations concernant les événements en cours dans notre pays. Ils visent manifestement à cliver les Français afin de propager un climat de guerre civile, à déstabiliser nos institutions démocratiques et plus généralement à démolir l'Union européenne que Moscou considère comme un obstacle à ses visées expansionnistes. De son côté, le centre d'analyse Alliance for Democracy a identifié 600 comptes Twitter usurpant le hashtag « gilet jaune » et travaillant pour le compte du Kremlin. Ces sites propagandistes propagent donc des rumeurs bien particulières selon un plan de campagne de désinformation systématique. Ainsi, la semaine dernière, ils ont tenté de démontrer que les forces du maintien de l'ordre en France étaient en train de basculer du côté des manifestants. Vous avez peut-être vu vous-même quelques-unes de ces vidéos truquées montrant notamment des policiers de peau retirant leurs casques soi-disant par solidarité avec les gilets jaunes ou celles encore de ce gendarme exhibant un panneau proclamant « ne lâchez rien ». Eh bien, elles sont fausses. À Pau, les policiers ont accepté de retirer leurs casques provisoirement pour parlementer avec des manifestants, puis ils les ont remis. L'AFP consacre son site factuel à déminer un certain nombre de ces fausses informations, mais il n'est pas anodin de constater qu'au même moment, les moyens d'information russes en français comme Sputnik et RT relayaient ce même genre de rumeurs. Ils ont joué un rôle important dans la diffusion du mensonge concernant la réduction des pensions de reversion aux veuves. La rumeur de la semaine, je vous la prédis, c'est « Macron est en train de vendre la France à l'ONU ».
Et Poutine s'était déjà invité durant la campagne électorale présidentielle de 2017, Brice.
Oui, on sait assez bien quels sont les candidats qu'il favorise de son argent et de sa propagande. Ce sont ceux qui partagent ses idées, révolution conservatrice, État autoritaire, souveraineté nationale illimitée et refus du droit international, et ses intérêts aussi. Dissolution de l'Union européenne, retour de l'influence russe sur les pays d'Europe centrale en tant qu'ancien membre du pacte de Varsovie. Le plus comique dans l'affaire, c'est que les médias russes de leur côté accusent de subversion dans les affaires françaises le gouvernement américain. Ils évoquent la menace d'une révolution de couleur qui planerait sur le gouvernement français dans le style de celles qui ont secoué les anciennes républiques soviétiques de Géorgie ou d'Ukraine. Il s'agirait de punir Macron de ses insolences envers Trump. Le fait est que Steve Bannon, le grand manipulateur de médias au service de Donald Trump, est en ce moment en mission en Europe. Il y a créé son mouvement qu'il finance avec de l'argent américain. Il ambitionne d'aider les partis souverainistes à conquérir la majorité des sièges au Parlement européen. Il rencontre les dirigeants des partis d'extrême droite. Samedi, reçu par son grand ami Matteo Salvini, il s'est félicité, je cite, « que Paris brûle ». Vladimir Poutine Poutine et Donald Trump peuvent bien s'accuser mutuellement, cela n'empêche pas de conjecturer qu'ils poursuivent en réalité le même objectif, déstabiliser l'État français en entretenant chez nous une atmosphère de guerre civile, sur les réseaux sociaux qu'ils inondent de rumeurs et de propos incendiaires, sachons-nous garder la distance critique qui s'impose.
Preuve, cher Brice, qu'il va falloir peut-être aussi réfléchir à un cadre normatif pour mieux protéger les droits humains dans le domaine du numérique. On parle toute cette semaine des droits de l'homme. Merci beaucoup, cher Brice. On vous retrouve demain.